Chapitre 2. Nicole faisait à nouveau d'étranges rêves. À son éveil, elle ne se souvenait que de quelques scènes isolées. Son arrière-grand-père Homais, ou plutôt sa tête privée de corps, lui avait adressé une mise en garde incompréhensible. Dans un autre songe, Richard s'était avancé dans un océan paisible avant d'être englouti par un raz-de-marée. Elle se frotta les yeux et regarda l'horloge. Il serait bientôt 4 heures.
Presque toujours au même moment, pensa-t-elle. Qu'est-ce que ça signifie?
Elle se leva et alla dans la salle de bain. Un peu plus tard, elle avait enfilé un survêtement et gagné la cuisine. Elle but une gorgée d'eau et un Lincoln au repos contre la paroi du fond s'anima et vint vers elle.
Désirez-vous du café, Madame Wakefield?
S'enquit-il en la débarrassant du verre vide.
Non, Link. Je sors. Si on t'interroge, réponds que je serai de retour à 6 heures.
Elle se dirigea vers la porte. Avant de quitter la maison, elle passa devant le cabinet de travail. Des papiers étaient éparpillés de toutes parts, même sur l'ordinateur que Richard venait de concevoir et de fabriquer. Son mari était très fier de cette réalisation, même si son jouet préféré était toujours le micro de l'ICI qu'il avait gardé sur lui en permanence depuis le lancement du module Newton. Elle reconnut l'écriture de Richard sur une feuille, mais ne put interpréter les symboles du langage informatique.
« Il passe tout son temps ici »,
se dit-elle, tiraillée par un sentiment de culpabilité,
bien qu'il soit opposé à ce projet.
Il avait tout d'abord refusé catégoriquement de participer à l'analyse des algorithmes du système de contrôle météorologique du Nouvel Éden. Elle se rappela leur longue discussion.
« Nous vivons en démocratie »,
avait-elle avancé.
« Si nous ne nous plions pas aux décisions de la majorité, nous donnons un mauvais exemple. »
« Tu sais aussi bien que moi que c'est une idée stupide. Tu l'as d'ailleurs combattue avec Kenji. Et n'est-ce pas toi qui as déclaré que nous devions protéger les hommes de leurs bêtises ?»«
S'il te plaît, Richard, tu peux exprimer ton point de vue, mais c'est devenu un élément important de la campagne électorale. Que nous soutenions Watanabe n'est pas un secret. Et si tu ne collabores pas, tous penseront qu'il veut saboter ses travaux. »
Elle regarda autour d'elle et fut surprise de voir 3 personnages posés sur une étagère au-dessus du bureau.
Le prince Hal, Falstaff et B. Il y a bien longtemps que Richard ne les a pas chargés de nous distraire.
Elle pensa aux semaines monotones qui s'étaient écoulées après leur somme interminable. Pendant qu'ils attendaient l'arrivée des colons, ces robots avaient été leur principale source d'amusement. Elle pouvait encore entendre les rires des enfants.
Tout était alors plus simple, plus facile.
Elle tira la porte et repartit dans le couloir.
Et à présent, nos petits amis restent figés et muets.
Elle s'arrêta à côté des bicyclettes et hésita un instant avant de faire demi-tour. 1 minute plus tard, elle gravissait le sentier tortueux du mont Olympe. Elle marchait d'un pas rapide, perdue dans ses pensées. Son esprit sautait d'un sujet à l'autre, des problèmes posés au Nouvel Éden, à ses rêves étranges et ses craintes pour ses enfants, surtout pour Cathy. Elle atteignit une bifurcation. Une pancarte annonçait que le chemin de gauche menait au téléphérique. Sa présence fut détectée et une Garcia vint vers elle.
« Inutile !» lui cria Nicole. « Je préfère marcher. »
La vue était de plus en plus belle au fur et à mesure qu'elle s'élevait. Elle s'arrêta à un des belvédères, à 500 mètres d'altitude et moins de 3 kilomètres de chez elle. Elle parcourut des yeux le Nouvel Éden. La nuit était limpide, le temps très sec.
« Encore une journée sans pluie, »
se dit-elle. Elle voyait Beauvois en contrebas. Les lumières de la nouvelle usine de meubles permettaient de reconnaître la plupart des constructions en dépit de la distance. Au nord, la montagne dissimulait le village de San Miguel, mais de l'autre côté de la colonie, au-delà de la poche de ténèbres de Central City, elle discernait le halo lumineux de Vegas, ce qui chassa sa bonne humeur.
Ce maudit complexe de loisirs reste ouvert à longueur de nuit et gaspille une énergie précieuse pour attirer les gogos vers cette distraction douteuse.
Elle pensa alors à Cathy et se demanda si elle n'était pas toujours debout au sein de cette débauche de lumière. Nicole et Richard parlaient souvent de leur fille. Ils n'avaient que deux sujets d'accrochage, Cathy et la politique. Et encore était-il faux de dire que leurs points de vue étaient très différents en ce dernier domaine. Richard estimait simplement que tous les politiciens, à l'exception de son épouse et peut-être de Kenji Watanabe, n'avaient aucun scrupule. Lors de telles discussions, il lançait des jugements à l'emporte-pièce sur les magouilles des sénateurs, puis en restait là. Mais lorsqu'il parlait de Cathy, il lui reprochait son intransigeance.
Et aussi de l'avoir négligée. Il affirme qu'à cause de mon engagement politique, nos enfants n'ont eu qu'une mère à temps partiel pendant les périodes de l'existence où ils étaient le plus vulnérables.
Cathy leur rendait rarement visite. Elle préférait à sa chambre de Beauvois le luxe de son appartement de Vegas. Un soir, Nicole s'était décidée à lui demander
« Comment règles-tu ce loyer ?»
Et Cathy lui avait répondu sur un ton de défi
« Devine, je travaille quand je n'ai pas de cours à l'université.
Quel genre d'occupation ?»«
Hôtesse, entraîneuse, appelle ça comme tu voudras. »
Nicole se détourna du halo de Vegas.
Il est normal qu'elle manque de points de repère, car elle n'a pas eu d'adolescence. Le problème, c'est que ça ne semble pas s'arranger.
Elle reprit l'ascension de la montagne. De 500 à 1000 mètres d'altitude, la pente était couverte d'arbres déjà trois fois plus grands qu'elle. Ici, le chemin disparaissait entre le flanc du mont Olympe et la paroi extérieure de la colonie. Un belvédère avait été aménagé à l'extrémité de ce passage obscur, long de plus d'un kilomètre.
Nicole s'y arrêta pour regarder San Miguel. « J'ai sous les yeux la preuve de notre échec, » se dit-elle en secouant la tête. « Pauvreté et désespoir ont accompagné les hommes au paradis. »
Elle l'avait prédit et annoncé avant la fin de son mandat. Les causes de la paupérisation de San Miguel, un village dont les habitants avaient des revenus deux fois moins importants que partout ailleurs, remontaient à la fondation de la colonie. Les passagers de la Pinta s'étaient presque tous installés dans ce qui deviendrait Beauvois, créant un état de fait qui s'était accentué à l'arrivée de la Niña. Les Orientaux s'étaient regroupés à Hakone, les Euro-Américains à Positano et dans les logements encore libres de Beauvois, et les Hispaniques et les Noirs, de toutes origines, avaient dû se rabattre sur San Miguel. En tant que gouverneur, Nicole avait voulu mettre un terme à cette ségrégation. Par un plan de réimplantation utopiste qui eut réparti dans chaque village un pourcentage d'ethnies reflétant la composition de l'ensemble de la colonie. Sa proposition aurait pu être acceptée au tout début, par exemple à leur sortie du somnarium, quand tous la portaient encore au nu. Mais un an après, il était déjà trop tard. La libre entreprise avait creusé de trop grands écarts entre les richesses personnelles et la valeur des propriétés pour que ces idées puissent être mises en pratique. À la fin de son mandat, le Sénat avait avalisé sa nomination par Kenji à un poste de juge permanent, mais sa popularité avait souffert de ses prises de position, et ses adversaires ne se privaient pas d'affirmer que son point de vue sur la fusion des différentes communautés était d'une naïveté accablante. Elle reprenait son souffle quand les lumières de San Miguel lui en rappelèrent d'autres. Les lueurs scintillantes de Davos, en Suisse, sur la planète Terre.
Après avoir dîné dans un restaurant juché sur le flanc de la montagne, Nicole et Geneviève étaient sorties sur le balcon malgré un froid mordant.
Loin en contrebas, les feux de la ville évoquaient des diamants posés sur un écrin de velours noir.
Nicole avait les yeux humides de larmes. « Encore merci, Kenji.
murmura-t-elle en pensant aux photographies que son ami lui avait apportées de la Terre.
« Merci de m'avoir fait partager ces quelques instants passés en compagnie de Geneviève. »
Elle fit demi-tour.
« Ce qui nous manque, c'est du courage des valeurs et de la clairvoyance. »
Mais elle redoutait au fond de son être que le pire fût encore à venir.
« Malgré tout ce que nous avons fait, les colons voient toujours en nous des étrangers. Je doute que nous puissions influencer l'avenir du Nouvel Éden. »
Richard s'assura que les trois Einstein avaient convenablement recopié tous les fichiers, puis sortit avec eux du cabinet de travail. Nicole lui donna un baiser au passage.
« Tu es un type formidable, » lui dit-elle.
« L'ennui, c'est que tu es la seule à le penser. »
« Parce que je suis la mieux placée pour le savoir ?»«
J'en aurai pas pour longtemps. Je n'ai plus que deux idées à tester avec les Albert, et si cet essai se solde par un échec, je laisserai tomber. » Il s'éloigna vers la gare de Beauvois avec le trio d'Einstein pour prendre le train de Positano. Arrivé à destination, ils traversèrent le village et se présentèrent aux portes du Nouvel Éden où un humain et deux Garcia contrôlèrent leurs identités avant de les autoriser à sortir dans le passage annulaire. Après une rapide inspection électronique, ils atteignirent l'unique ouverture pratiquée dans la paroi externe de l'habitat terrestre. Elle s'ouvrit et Richard précéda les biotes dans Rama. Il s'était opposé à la décision du Sénat d'avaliser la fabrication d'une foreuse qui leur permettrait d'accéder au milieu extérieur. Il craignait que l'air fût irrespirable et pût contaminer l'atmosphère du Nouvel Éden. Suite à ces mises en garde, on avait débloqué des crédits pour isoler tout le secteur autour du site de forage. Quand il s'était avéré que ses craintes étaient infondées, Richard avait perdu toute crédibilité. Il régnait au-delà de l'enceinte du Nouvel Éden une nuit perpétuelle, et la pression subissait de légères variations périodiques, mais il n'était pas nécessaire d'enfiler un scaphandre pour s'y aventurer. En deux semaines, les humains avaient cartographié tout le secteur de la plaine centrale qui leur était accessible. Cette zone incluait l'habitat terrestre et un parallélépipède presque identique qui devait, selon Richard et Nicole, abriter des représentants d'une autre espèce spatio-pérégrine. Aux quatre angles de l'espace dégagé se dressaient des cylindres massifs contenant les fluides et les machines nécessaires au maintien de conditions climatiques favorables à la vie dans les deux habitats. Cette région externe avait pour toit le côté opposé du vaisseau et couvrait la majeure partie de son hémicylindre nord. Un grand igloo de métal était la seule autre construction de la plaine centrale. Le centre de contrôle météorologique du Nouvel Éden, situé à environ 2 kilomètres au sud de son enceinte. Richard et les Einstein se dirigèrent vers ce dôme. Ils essayaient depuis près de 2 semaines de s'assurer la maîtrise du temps. En dépit des objections de Kenji Watanabe, le Sénat avait affecté des fonds pour que les meilleurs ingénieurs cherchent un moyen de modifier les algorithmes climatiques. Des scientifiques japonais étaient en effet convaincus qu'un simple ajustement de quelques paramètres devrait permettre de stabiliser les conditions météorologiques, même avec un taux encore plus élevé de gaz carbonique et de suie dans l'atmosphère. Les politiciens, qui ne tenaient pas à interdire l'utilisation du bois de chauffage et à reconstituer le réseau de CG, s'était laissé tenter. Pour Richard, cela équivalait à retarder des mesures qu'il faudrait prendre tôt ou tard, mais il avait cédé aux suppliques de Nicole. Les ingénieurs ne comprenaient pas le fonctionnement du système de régulation et il avait accepté de se pencher sur la question, à condition de travailler seul, uniquement assisté par ses Einstein. Il s'arrêta avec ses biotes à 1 kilomètre de la colonie. Des architectes et des techniciens se penchaient vers une longue table sous une batterie de projecteurs. Creuser un canal sera facile dans un sol aussi meuble. Et que ferons-nous des eaux usées? Faut-il s'en débarrasser dans des puits perdus ou les ramener dans le Nouvel Éden pour les recycler?
Ce village consommera beaucoup d'énergie. Je ne parle pas que de l'éclairage indispensable dans des ténèbres permanentes. De plus, les déperditions seront très importantes à cause de la longueur des câbles.
Richard éprouva du dégoût et de la colère. Ses hommes étaient chargés d'étudier l'implantation d'un camp où seraient regroupés les porteurs du rétrovirus RV41. Ce projet baptisé Avalon était le résultat d'un compromis entre le gouverneur et son opposition. Kenji avait donné son accord à cette étude afin de démontrer son ouverture d'esprit. Richard et ses Einstein repartirent vers le sud. Au nord du centre de contrôle, ils rencontrèrent un groupe d'humains et de biotes qui se dirigeaient vers le second habitat avec un matériel impressionnant.
« Hé, Richard !»
l'appela Marilyn Blackstone, la responsable des opérations de forage. « Où en sont les travaux ?» lui demanda-t-il.
« Venez vous en rendre compte par vous-même, si vous avez 5 minutes. »
Il laissa les Einstein et accompagna la jeune femme et son équipe. Pendant qu'ils traversaient la plaine centrale, il se rappela une conversation avec Kenji et Ulanov peu avant l'approbation officielle du projet de sondage.
Je tiens à préciser que je m'oppose catégoriquement à toute tentative d'intrusion dans l'autre module, avait-il dit. Nicole et moi sommes certains qu'il est occupé par des formes de vie différentes et rien ne nous autorise à y pénétrer.
Supposons qu'il soit désert, avait répliqué Dmitri. Les Raméens ont pu l'aménager afin de découvrir si nous sommes assez malins pour y accéder.
N'avez-vous pas écouté ce que nous vous répétons depuis des mois? Vous vous raccrochez à une idée homocentrique ridicule de la place que les humains occupent dans l'univers. Parce que nous sommes l'espèce dominante sur la Terre, vous vous imaginez que nous avons un statut particulier. C'est absurde. Il y a des centaines de...
Richard,
l'avait interrompu Kenji d'une voix douce.
Nous connaissons votre point de vue, mais vos concitoyens ne le partagent pas. Ils n'ont vu ni l'aigle ni les octopodes, aucune des créatures dont vous parlez. Ils veulent savoir si une expansion de la colonie ne serait pas possible.
Ils craignaient déjà que Macmillan ne batte Ulanov lors des élections et ne livre la colonie à Nakamura. Dès qu'ils atteignirent le site de sondage, les deux Einstein se mirent à l'ouvrage et installèrent la foreuse laser devant la cavité déjà creusée dans la muraille. 5 minutes plus tard, l'appareil élargissait l'ouverture.
« À quelle profondeur êtes-vous ? » demanda Richard.
« Seulement 35 centimètres, » lui répondit Marilyn. « Nous prenons notre temps. Si ce mur est aussi épais que la paroi de notre habitat, nous arriverons de l'autre côté dans 3 ou 4 semaines. » Oh. Vous ai-je dit que l'analyse spectrométrique a confirmé qu'il est fait du même matériau?
Et que ferez-vous ensuite?
Elle rit.
N'ayez aucune crainte, Richard. Nous respecterons vos recommandations. Nous procéderons à une observation passive de 2 semaines avant de passer au stade suivant, pour laisser aux occupants de ce module le temps de réagir. S'ils existent, naturellement.
Son scepticisme était évident.
Vous aussi, Marilyn. Vous croyez que Nicole, les enfants et moi avons inventé tout cela?
Une histoire extraordinaire reste extraordinaire tant que des preuves tangibles ne viennent pas l'étayer,
répliqua-t-elle. Richard secoua la tête. Il avait trop à faire pour perdre du temps en vaines discussions et il repartit peu après vers le centre de contrôle où l'attendaient ses Einstein. L'avantage avec eux, c'était qu'il pouvait tester plusieurs idées à la fois. Sitôt qu'une possibilité lui venait à l'esprit, il l'exposait à un des Einstein qui se chargeait de la mettre en pratique. Ses biotes s'abstenaient de faire des suggestions, mais avaient une mémoire infaillible. Les ingénieurs chargés de modifier les algorithmes météorologiques s'étaient fixés pour but de comprendre le fonctionnement du superordinateur raméen. Pour Richard, il s'agissait d'une erreur. Conscient qu'un humain ne pouvait différencier la science extraterrestre de la magie, il ne s'intéressait qu'aux signaux de sortie. Des sondes enregistraient constamment les conditions atmosphériques dans le Nouvel Éden, et le logiciel extraterrestre devait utiliser ces variables pour calculer les instructions qu'il transmettait ensuite aux grandes structures cylindriques où se déroulait la phase matérielle de stabilisation. Comme aucun câble ne reliait le centre de contrôle au cylindre, la liaison devait être assurée par une émission d'ondes. Mais lesquelles ? En balayant toutes les fréquences, il avait capté de nombreux signaux. Les analyser et les interpréter revenait à chercher une aiguille dans une botte de foin. Aidé par les biotes, il avait constaté que les signaux les plus fréquents étaient émis dans la bande des micro-ondes et ils avaient consacré une semaine à tout enregistrer, puis à procéder à des comparaisons avec les conditions climatiques et à définir quels paramètres provoquaient telle ou telle réaction. Il ne leur restait qu'à tester un émetteur capable, en théorie, de diffuser des signaux identiques. La première tentative se solda par un échec. Richard mit au point une routine qui permettrait d'envoyer les impulsions avec une précision de l'ordre du millième de seconde, puis procéda à un dernier essai. À peine eut-il adressé ce qu'il espérait être de nouveaux paramètres au cylindre, qu'un signal d'alarme se déclencha. Presque aussitôt, une image spectrale de l'aigle apparut dans les airs au-dessus d'eux.
« Êtres humains !»
dit l'hologramme.
« Nous vous exhortons à la prudence. C'est avec beaucoup de minutie que nous avons calculé l'équilibre délicat de votre habitat. Ne modifiez les algorithmes de contrôle qu'en cas d'absolue nécessité. »
Bien que sous le choc, Richard pensa à ordonner aux Einstein d'enregistrer la scène. L'aigle répéta sa mise en garde, puis disparut. Mais les images de son intervention avaient été stockées dans les mémoires des biotes.